One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen. Et ce soir dans Ping Pong, une actrice qui a des constellations dans le regard et un parfumeur au nez buissonnier qui nous invite dans le jardin de la mémoire et du siècle qui vient.
Ping Pong, la culture sans limite. Ping Pong.
Ce soir, dans Ping Pong, note printanière et note sacrée, avec Géraldine Pellas qui incarne une soprano qui fait revivre dans le froid québécois et contre les oublis de l'histoire les musiques liturgiques des synagogues françaises de la fin du 19e et du début du 20e. Mobile étoile, coécrit et réalisé par Raphaël Nadjari, sort aujourd'hui. Et avec Jean-Claude Héléna, Nestar, écrivain de parfums, notamment frais et pourpre comme Terre d'Hermès, il participe cette année à la 25e édition du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire et présentera son jardin carte verte du 21 avril au 2 novembre.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen. Ping Pong, c'est sur France Culture.
Tout commence pour lui à l'aube. Dans une pinette près de Grasse, au loin la mer brumeuse, puis l'odeur de la terre mouillée, des genêts, du lavandin, qui montent aux narines. Lui, l'un des plus grands parfumeurs du monde, n'aime pas qu'on lui dise qu'il les a aiguisés, car ça n'est pas une question de don, mais de culture, de grammaire. Lui, qui a su imposer des conditions de création particulièrement exceptionnelles à Hermès, où il a su créer Terre, preuve que le succès peut être allié à l'exigence. Lui parle d'une langue des odeurs qui lui est propre et qu'il pratique. Il aime la réminiscence des parfums, mais surtout pas la nostalgie. Il nous fait visiter les siens, donc dans le festival de Chaumont-sur-Loire, Festival international des jardins, tourné vers le 21e siècle cette année. Jean-Claude Héléna, bonsoir.
Bonsoir.
Elle est une étoile au parfum entêtant. Apprentie danseuse étoile, elle se découvre actrice avec des gitans, puis aux côtés de Jacques Demy alors qu'elle n'a que 17 ans. Elle brille ensuite dans La neige et le feu de Claude Pinoteau, rôle qui lui vaut un César étincelant. Puis elle rejoint Maurice Pialat au firmament du 7e art dans Le Garçu. Est-elle donc Callisto, Électre ou Cassiopée? Eh bien, au gré de ses rôles, chacun de nous se fait son idée, les yeux levés sur le grand écran. Mais elle poursuit sa course et resplendit aujourd'hui dans Mobile étoile, le nouveau film de Raphaël Nadjari, une histoire d'amour où le sacré et le profane se disputent une musique céleste, celle des synagogues françaises du 19e siècle finissant et du début du 20e siècle, comme celle de Fernand Alphen, que nous écoutons à présent, une musique sauvée de l'oubli et du silence par son personnage, Anna Herman, une soprane qui vit à Montréal avec homme et enfant et qui bataille pour faire entendre, pour faire respirer des partitions qui ne sont peut-être pas tout à fait dans l'air du temps, mais qui ont pour elle un parfum d'éternel. Mobile étoile est en salle depuis aujourd'hui. Bonsoir Géraldine Pellas.
Bonsoir Martin.
Vous êtes Jean-Claude Héléna, écrivain de parfums. C'est comme ça que vous vous présentez. Pourtant, évidemment, dans le champ lexical, les mots de note, par exemple, évoqueraient immédiatement la musique dans votre travail. Elle est néanmoins présente. J'ai vu que vous aimiez écouter du Mozart pour vous ressourcer et du jazz lorsque vous avez besoin d'inspiration créatrice et que vous voulez faire une variation sur des standards. Quel est votre rapport dans la création des parfums à la musique, malgré tout ?
En fait, le rapport à la musique, c'est que le parfum,
Le parfum a toujours été associé à la musique et j'avais envie de me débarrasser de cette association parce qu'il avait été, ça avait été épuisé. On est allé jusqu'au bout de cette association musique, enfin musique parfum, par à la fois par l'orgue à parfum, les notes de musique, enfin les notes de musique et les notes de parfum, etc. Et je trouvais que c'était une impasse. Donc je me suis dégagé de ça pour aller vers la littérature et en disant mais attendez, avec des mots on peut parler parfum et par les mots je peux parler parfum, par les mots je peux faire passer des odeurs et regarder que par exemple, dans les mots des odeurs font référence souvent au toucher. Parce qu'on va dire un parfum caresse, un parfum tendre, un parfum, il est brutal, il est rêche, il est dur, il est sec, il est mou, il est... Donc tout ça, ce sont des mots du toucher. Et je trouvais que par là, bien, oui, il y avait des choses à dire et peut-être on pouvait faire ressentir des émotions plus qu'en passant par la musique. Ou en passant par les notes olfactives qui sont, ça sent le jasmin, ça sent l'ylang, ça sent la rose, mais... Ça sent la rose, le jasmin, l'ylang pour les spécialistes. Mais quand je dis ça au public, à part la rose, peu de monde connaît le jasmin, encore moins l'ylang. Donc ce sont des mots exotiques, mais qui disent pas grand-chose. Donc le mot des émotions, c'est plutôt le toucher.
Géraldine Pellas, les mots sont l'outil des actrices, des acteurs, depuis au moins le chanteur de jazz, hein, le premier film parlant. Et pourtant, dans ce nouveau film de Raphaël Nadjari, Mobile Étoile, dans lequel vous incarnez donc Anna Herman, eh bien le langage que Raphaël Nadjari a choisi, c'est d'abord la musique. Il dit on a travaillé en musicien sur ce film. Or, j'ai découvert que Nicolas Saada, qui a pu vous diriger, notamment dans son film Espion, a dites-vous que vous saviez jouer la suspension, le silence, que vous aviez une présence à la fois moderne et classique. Alors, toute une partition musicale, vous pourriez nous parler de justement la partition qui a été la vôtre sur Mobile Étoile et aussi des improvisations que vous vous êtes permises, parce que je crois qu'il y avait de l'improvisation sur le tournage.
Le film est très écrit, a été écrit par un scénariste, Vincent Poimereau, avec Raphaël Nadjari. Ils ont créé une histoire très riche, avec des rebondissements, peut-être pas extrêmement spectaculaires, mais réels, puisque dans vraiment l'aventure de la vie de ce couple, donc Anna et son mari, avec leur enfant, qui sont passionnés de musique. Ces rebondissements deviennent vraiment parfois tragiques ou extraordinaires quand il s'agit d'obtenir tout à coup l'argent d'une subvention qui est attendue depuis des semaines, voire des mois. Et donc je suis cette Anna qui se bat un peu comme une sorte de Don Quichotte contemporain pour le maintien en vie d'un art, d'une musique particulière, qui est cette musique que vous avez décrite, une musique qui est issue du sacré, enfin de chants liturgiques, qui n'était plus vraiment joué à part dans les synagogues, et elle veut que tout ça existe. Pour arriver à parler de ce personnage, on a dû tous rencontrer effectivement la musique, et la façon de travailler de Raphaël Nadjari, depuis toujours, a été, après l'écriture du scénario, de se débarrasser le plus possible des dialogues qu'ils avaient pu écrire pour laisser la place aux acteurs, pour les laisser s'emparer vraiment des scènes avec des mots qu'on a plus ou moins établis avant, mais qui sont en tout cas très, très laissés libres à nos interventions spontanées, quoi, pratiquement. Donc il y avait d'un côté ça, et de l'autre côté quelque chose de très articulé, très artificiel, très travaillé, qui était la musique, et qui faisait qu'on avait tous besoin de devenir musicien pour pouvoir avoir un petit peu d'aisance dans la fabrication technique du film, et pour pouvoir, dans le même plan, pour moi par exemple, être en train de parler avec un de mes acteurs musiciens et de pouvoir me mettre à chanter alors que lui prenait son violon et tout ça sans couper et que ça ait l'air comme d'être un film de Raphaël Nadjari, quoi, c'est-à-dire que tout ait l'air vivant et naturel et comme si c'était notre vie qu'on était en train de raconter.
Oui, il y a presque quelque chose du documentaire d'ailleurs dans le dispositif de mise en scène et...
Oui, je trouve que
l'atmosphère qui se dégage.
C'est quelque chose qui est commun à tous ces films, et dans ce film-là, la gageure était encore plus grande puisque on avait un poids supplémentaire dû à la technique qui se devait d'être légère pour que le film garde l'identité du metteur en scène Raphaël Nadjari.
Mais cette Anna Don Quichotte, elle a aussi un combat esthétique à mener. C'est quelqu'un qui défend la retenue. Il y a aussi un très joli passage du film qui parle des annotations françaises hein, de Bussy, de Satie, qu'on appelle les nuances. C'est vrai que moi, je repense aux gnossiennes d'Éric Satie, du bout de la pensée, si c'est pas une des plus belles annotations de partition. Je trouve que cette idée de retenue, ça vous va aussi très bien dans votre rapport à la mémoire et à la création des parfums, Jean-Claude Elena. C'est quelque chose aussi que vous essayez de travailler. On ne se vautre pas dans la nostalgie, dans la réminiscence parfumée, ni dans le capiteux chez vous. Vous cherchez quelque chose de beaucoup plus léger et surtout ne jamais perdre l'époque. C'est ça, de la retenue et du contemporain.
Il y a la notion de retenue, de contemporain. Et par rapport à ce que dit Géraldine, il y a des notions que là j'entendais que j'aimais, c'était la notion de l'artificiel et de la notion d'artificiel qui devient naturel. Et je veux dire, c'est pas l'artificiel qu'on devient naturel. Et dans le parfum, c'est la même chose. L'artificiel me permet d'accéder au naturel beaucoup plus que le naturel au naturel, parce que le naturel, c'est quelque chose de complexe, très très complexe, très lourd, très chargé, ce qui fait que, eh bien, au porter, le parfum manque de naturel. Et quand vous démontez tout ça, vous cherchez l'essentiel dans le naturel, c'est-à-dire vous passez par l'artificiel. C'est j'ai besoin de 2-3 notes pour exprimer du naturel. Et donc c'est un travail très long à apprendre, c'est-à-dire de se débarrasser du naturel pour aller vers l'artificiel pour retrouver le naturel. Et c'est là qu'on retrouve les nuances. Hein, c'est-à-dire que je vais travailler des mois sur des petites quantités, des petits pourcentages pour avoir l'effet, je dirais vraiment l'effet naturel qui fait que, ah oui, mais c'est naturel. Mais en fait, il n'y a rien de naturel, mais ça sent naturel.
Aussi léger que possible.
Et aussi léger que possible, oui, aussi léger que possible. Et là, il y a un plaisir de le faire et un merveilleux plaisir à entendre quand la personne de l'autre côté vous dit, qu'est-ce que c'est naturel, vos parfums.
Mais vous dites parfois que le public n'est pas prêt à entendre.
Mais le public n'est pas prêt à entendre le discours. Voilà. Parce que si je le fais entrer dans la formulation, c'est-à-dire dans le travail artificiel même, il ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui lui échappe. Moi, il m'a fallu des dizaines d'années pour arriver à faire ce travail-là. Quelqu'un qu'on met aujourd'hui, que je vous mets comme ça devant le fait accompli, devant ce que je fais, me dit, mais non, c'est pas possible. Et la lecture n'est pas possible. Pour le public dans ces cas-là. Donc je passe par le discours, par les mots pour expliquer, mais voilà, il y a une limite quand même à ça. Sauf dans le ressenti, où le ressenti, lui, il va être très naturel.
C'est-à-dire que vous parlez en molécules plutôt qu'en...
Ah oui, essayez par exemple sur la cerise. La cerise, Jean-Claude Elena.
Ah, la cerise, c'est très facile, c'est géraniol et thylmaltol, et ça sent la cerise.
Voilà.
En fait, au départ, c'est des chants liturgiques. C'est la musique religieuse qui a été récupérée par le répertoire classique.
Nous sommes pratiquement les seuls détenteurs de cette musique.
Présentement, il y a des pressions monétaires et il y a beaucoup de projets.
On ne peut pas perdre cette musique-là.
Ma colombe la nuit dans les rues.
Je trouve ça incroyable que vous l'ayez trouvé.
Je serai à Montréal dans une semaine.
C'est bien d'être avec toi. Ça me plonge dans des images, des souvenirs.
Anna, s'il vous plaît.
La rupture, ça peut faire du bien aussi, des fois.
Quelquefois, on se rend pas compte qu'on pousse les gens dans une voie qui est pas la leur.
Mobile étoile, le nouveau film de Raphaël Nadjari dans lequel vous jouez, donc Géraldine Pellas aux côtés de Luc Picard, Félicia Schulman ou Éléonore Lagacé qu'on entend chanter à vos côtés. Il y a dans ce film, d'emblée, une sorte... il y a un parfum qui se dégage et à mon sens, on a l'impression que c'est le parfum de quelque chose qui s'achève,
de quelque chose qui disparaît. Et puis, tout du long du film, s'affirme une sorte de note entêtante. Et je me suis demandé, est-ce que c'est le désir? Est-ce que c'est la joie? Vous, quelle est votre perception du parfum de ce film?
Moi, j'ai plus l'impression que c'est le parfum de quelque chose qui ne veut pas être enterré, qui essaye désespérément de ressurgir par toutes les failles possibles, imaginables, quelque chose qui serait dans un coffre, parce qu'il y a un moment dans le film quand même où on déterre quasiment un trésor du passé qui mobilise chaque parcelle de cette personne qui la recherche, que je joue. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est plus un parfum... de quelque chose qui ne veut pas mourir.
Et de la réinvention.
Oui, alors la réinvention qui passe par la transmission, par la rencontre avec quelqu'un de neuf, quelqu'un qui propose quelque chose d'inattendu, qui vient sortir mon personnage de la tradition vraiment pure dans laquelle elle a été éduquée dans la musique par son maître de musique à elle. Et tout à coup, elle se retrouve dans une position de... où elle peut se débarrasser finalement de tout ce qu'elle a accumulé, des inspirations diverses, des Pygmalions, et pouvoir à son tour devenir elle-même Pygmalion et participer à la naissance d'une chanteuse qui n'est pas elle. Et le film va lui permettre de comprendre ça, que cette jeune fille... est autre, hein, et que pourtant la transmission peut avoir lieu.
C'est presque un parfum de printemps, en dépit des conditions rudes du Québec qu'affronte Anna. Justement, je voudrais qu'on se plonge dans ces effluves printanières, ces notes de muguet. Est-ce que vous pourriez, avec nous, Jean-Claude Elena, vous glisser dans le parfum de ce jardin que vous avez composé pour le Festival international des jardins, de cette petite alliance de ce que j'ai pu en lire, qui effectivement peut être du muguet, peut être
de l'iris, de la rose, etc. Comme il s'agissait de jardin, l'idée était simple, c'était de mettre autour du jardin sept chaises longues dans lesquelles le passant était invité à s'asseoir. Et puis de la chaise longue, comme le jardin était couvert de muguet au mois de mai, bien, vous sentez les effluves de muguet. Et à côté se trouve sous une cloche le parfum, c'est-à-dire la métamorphose, la transformation, la métamorphose. Et donc l'idée était simple, c'est-à-dire pour le public, pour le passant, c'est je sens la nature, je me plonge dans le parfum. Est-ce que le parfum est encore plus nature que la nature? C'est la question qui va se poser. Et c'est la question que j'offre. Et donc l'idée aussi, c'est de faire comme ça. Parce que la nature, elle, est éphémère, comme l'est les parfums aussi, mais elle est encore plus éphémère, puisque le muguet, c'est pour 15 jours de floraison. Ensuite viendra l'iris, ensuite viendra la rose, et donc il y a une succession comme ça de parfums qui arrivent et qui se dessinent, et qui vont permettre au public comme ça d'avancer dans ce jardin, de se promener dans ce jardin, dans les odeurs et dans les parfums.
Vous avez un rapport particulier au jardin. Oui, parce que d'ailleurs, vous vous imaginerez bien, même si c'est pas votre contemporain, dans les étagères des Essaintes, hein, le héros de Huysmans dans À rebours, il adorerait la synthétisation du naturel que vous êtes capable de proposer. La collection Parfums Jardin, il y a un jardin en Méditerranée, après, je crois, une visite en Tunisie, d'un jardin, un jardin sur le Nil, un jardin après la mousson, un jardin sur le toit, le jardin de Monsieur Lee. Quel est votre rapport justement à tous ces jardins?
Le rapport là, ça a toujours été la nature et la culture. Hein, c'est-à-dire de rentrer par le jardin dans la culture d'un pays. Le jardin est toujours une représentation, pour moi, est toujours une représentation de la manière dont les gens de ce pays voient leur pays. Et donc, c'est par le parfum que je peux les faire rentrer, par la nature, donc je peux les faire rentrer dans une culture. Et la culture chinoise... parce qu'avec le jardin de Monsieur Lee, n'a rien à voir avec le jardin méditerranéen, où on est dans une culture méditerranéenne et qui nous est proche. Donc d'un côté, je vais sentir, pour la Méditerranée, je suis dans le figuier, et donc c'est la chaleur, le soleil, les figuiers, sur les feuilles de figuier, on respire à la fois la fleur d'oranger, c'est chaud, et en même temps c'est vert, et en même temps c'est... Et donc, c'est cette ambiance très solaire, comme ça. Et puis, avec Monsieur Li, qui est le dernier, je suis en Chine. Et en Chine, on n'est plus dans ce même discours. En Chine, je suis dans la pierre, je suis dans l'eau. Qu'est-ce que sans la pierre? Qu'est-ce que sans l'eau? Et les jardins chinois sont peu floraux, ils sont très végétaux. Et c'est ça, c'est comme ça que j'emmène des gens. C'est-à-dire, je les fais passer d'une culture à une autre culture. Alors certains vont s'en apercevoir, d'autres pas, mais c'est pas grave du tout. Le tout, c'est moi, ce qui m'a dans la démarche, ce qui m'amuse surtout, c'est à chaque fois, je vais sur place et puis j'essaye de saisir. Je prends comme ça au vent et je prends quelques éléments du pays olfactif et que je vais traduire comme ça en parfum.
Géraldine Pellas, vous saisissez aussi ce qui vole au vent. On pourrait parler peut-être du parfum de Montréal, hein, où le film Mobile Étoile a été tourné, parfum d'érable peut-être, plutôt que de figuier. Mais vous parliez tout à l'heure d'un film sur la transmission, avec cette figure du maître de musique qui chemine en parallèle à votre personnage pendant un moment avant de la retrouver au cœur du film. Vous avez eu, en tant qu'actrice, une sorte de maître de cinéma, c'était Maurice Pialat. Vous dites que vous avez été inquiète après avoir joué à ses côtés de ne plus trouver goût avec aucun autre réalisateur. Quelle musique, puisqu'on parle de musique dans Mobile Étoile, quelle musique Pialat il vous a transmise, et peut-être comment vous faites, à l'instar de votre personnage Anna dans ce nouveau film, pour maintenir, pour réinventer, pour maintenir en vie la musique de Maurice Pialat?
Alors évidemment, il m'a transmis une musique certainement, mais je ne sais pas très bien si réellement c'est pas la musique que je suis moi-même allée chercher chez lui. C'est-à-dire que, évidemment, il existait avant moi, mais j'avais jamais pensé être actrice ailleurs que dans un film de Maurice Pialat, en fait. Ça a été la première fois que je me suis formulé cette idée. C'était pour être dans un de ses films, pour être filmée par lui. Et ensuite, très peu de temps à avoir formé cette idée, les choses ont bougé et j'ai fait des essais pour lui. Et on m'avait dit, surtout, ne mets aucune intention dans ton jeu. Moi, j'étais même pas jeune actrice, donc j'avais pas de formation particulière. Mais je me suis dit que j'oublierais jamais cette phrase, en fait. Et que, voilà. Et en fait, elle est restée. J'ai tourné ensuite avec lui. C'était pas vraiment un problème que je me suis posé. Mais il y a une chose que j'ai pu vraiment développer à ce moment-là, c'est qu'il travaille. Enfin, il a souvent travaillé avec des acteurs professionnels, voire de très grands acteurs, comme Gérard Depardieu, par exemple, ou Isabelle Huppert ou Nathalie Baye. Mais il avait aussi beaucoup de goût pour les amateurs, ce qu'il appelait les amateurs, qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas des professionnels. Et ainsi mettait en péril tout le savoir-faire des acteurs professionnels. Et du coup, ça devenait très compliqué d'être très bon face à ces amateurs quand ils étaient très bons, parce qu'ils ne l'étaient pas toujours, hein, faut pas non plus exagérer. Tout le monde ne peut pas arriver devant une caméra et être génial, mais quand ils étaient très bons, c'était sacrément bon. Et j'ai gardé ce goût-là depuis, qui parfois a pu me porter préjudice, parce que je pense qu'il y a des films dans lesquels il faut oser être plus articulé, il faut oser plus fabriquer un personnage, il faut oser faire, voilà, trafiquer, mentir, tricher. Et j'ai souvent trop voulu être dans une sorte de vérité, la vérité de l'instant, du moment, du personnage, à la minute, au temps T. Voilà, donc je m'en sers, bien entendu. Je m'en suis servi voluptueusement dans le film de Raphaël Nadjari, parce que je pense que c'était à peu près ça qui m'était demandé. Donc, je l'ai fait.
Du vrai, mais de l'artificiel, si naturel. On retrouve dans cette idée de maître de musique la transmission qui est très importante dans l'éducation olfactive. Vous êtes un élève de l'éducation olfactive. Jean-Claude Elena, vous l'avez reçu de votre père. On vous apprenait.
Alors, j'ai pas reçu de mon père.
De qui alors? Parce que je sais qu'on vous a appris à sentir chose avant.
Oui, à la fois mon père faisait, à la table, mon père nous incitait avant de manger, de sentir ce qu'on mangeait, avant de boire, de sentir ce qu'on buvait, etc., etc. Ce qui déplaisait fortement à ma mère. Mais c'est ça, c'était pas grave. et en désespoir de cause mauvais élève, comme je vous l'ai dit, je me suis retrouvé en parfumerie à l'âge de 16 ans. Et là, d'un seul coup, c'était le choc, la découverte. Et oui, je me sens bien en parfumerie, c'est bien. Enfin, le milieu est un milieu qui me plaît. Et je découvre moi, c'est pas Piala, mais c'est un monsieur qui s'appelle Edmond Runiska, qui est le parfumeur qui a fait L'eau sauvage, qui a fait de très grands parfums, et qui était vraiment le grand parfumeur du XXe siècle. Et lui a tout un discours, c'est le premier parfumeur à avoir un discours sur le parfum, sur l'esthétique, sur l'éthique, sur une façon de penser, je veux dire, penser le parfum. C'est la première fois qu'on disait, on va penser le parfum. Jusqu'alors, on faisait du parfum, comme on fait de la cuisine. Là, on pensait le parfum comme on peut penser la cuisine. Mais quand on pense la cuisine, on est 3 étoiles. Avant, on fait la cuisine. C'est tout à fait différent. Et ce qu'il disait, mais je me retrouvais dans ça. J'ai dit, mais oui, c'est... En fait, c'était les notions de simplicité. Donc, là, soyez simple dans ce que vous faites. Et visez la simplicité. Et alors, la simplicité, ça ne s'acquiert pas tout de suite, pas du tout. Ça demande énormément de travail. Mais voilà, j'étais passionné par la simplicité, par les purs. Et donc, tout ce travail des purs de simplicité, oui, ben voilà, c'était lui qui m'a donné cette phrase. Comme Géraldine a dit tout à l'heure, il y avait une phrase. Ben, là, c'était le mot simple. Et c'est ce qui a conduit mon travail. Ensuite, j'ai rajouté mes propres. Il y avait d'autres choses aussi. Il y avait d'autres choses aussi. Ce que je fuyais, il y avait quelque chose que je voulais fuir, c'était la cuisine bourgeoise et le parfum bourgeois. La parfumerie bourgeoise, c'est une parfumerie sophistiquée, complexe, lourde, surchargée, empilée, secrète. Tous ces mots, c'est des mots que je n'aime pas. Le secret, l'empilement, la surcharge. Ah non, surtout pas ça. Donc il faut se débarrasser de ça. Mais se débarrasser de ça, il y a tout un marché qui travaille comme ça. Toute la parfumerie classique est basée là-dessus. Donc ça prend des années pour s'en défaire, pour s'en dépouiller, pour s'en dévêtir et arriver à la simplicité. Ce qui fait que aujourd'hui il y a des gens qui aiment ce que je fais et puis il y a des gens qui aiment pas du tout ce que je fais, mais c'est pas grave. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui aime quand ses invités se dévêtissent pour montrer tous leurs artifices.
Et puisqu'on parlait de Piala, Van Gogh, tout le monde n'aimait pas non plus, souvenez-vous, à l'époque. On va se balader dans le champ du monde de Giono et puis aussi un petit peu chez Joy Division avec nos invités Géraldine Pellas et Jean-Claude Elena.
Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver Zoé Suez pour le journal de la culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Zoé. Bonsoir à tous. Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde. Et je consacre mon dossier du jour à cette nouvelle annoncée en grande pompe dans les salons cossus de l'hôtel de ville par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et par François Pinault. Le collectionneur, milliardaire, homme d'affaires français va enfin ouvrir une fondation d'art à Paris, précisément à la Bourse du Commerce, dans le premier arrondissement de Paris. Alors la rumeur courait depuis longtemps. Tout ça 11 ans après avoir échoué à imposer son projet de fondation à l'île Seguin, à Boulogne. Depuis ce moment-là, il a ouvert une autre fondation assez spectaculaire à Venise, à la Ponta della Dogana, et surtout son grand rival, autre homme d'affaires, autre milliardaire, autre collectionneur français, Bernard Arnault, a ouvert sa spectaculaire fondation Louis Vuitton. C'est à Boulogne. François Pinault, qui avait brillamment décrié dans une interview au Monde il y a quelques années les lenteurs administratives et les tensions locales qui l'avaient empêché d'agir à l'époque à l'île Seguin, semblait depuis prêt à tout pour revenir dans la ville lumière. Et aujourd'hui, hors de question pour lui de parler du passé.
Je ne me souviens pas avoir claqué la porte, mais de toute façon, je suis amnésique, le passé ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et ce qu'on va faire demain. J'espère bien ne jamais avoir quitté Paris, mais il y a eu cette belle aventure de Venise qui va continuer. Et maintenant Paris, qui est une aventure exaltante et qu'on va mener à son terme dans les plus brefs délais. Un lieu d'art d'aujourd'hui, de création contemporaine, un lieu qui donne de l'animation, une animation supplémentaire à la ville de Paris dans ce domaine. La maire le soulignait tout à l'heure, entre les grandes manifestations comme la FIAC, les grandes galeries parisiennes, tout ce qui se passe autour de l'art contemporain, c'est très important que Paris soit partie prenante. Elle ne laisse pas tout l'enjeu à Londres, New York et d'autres. Et je serais très, très très heureux d'y jouer un certain rôle, j'espère en tout cas.
François Pinault qui l'a dit, redit plusieurs fois ce matin, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a beaucoup, beaucoup fait pour que sa collection puisse revenir à Paris. Et ce, en fait, depuis plusieurs années, déjà à l'époque où elle était première adjointe du maire Bertrand Delanoë. La ville y est pour beaucoup, en effet, car pour récupérer la Bourse du Commerce, ce magnifique bâtiment rond qui donne à la fois sur les Halles et sur la rue du Louvre, la ville a dû convaincre les employés de la Bourse de déménager dans des locaux de la ville, procéder donc à un échange foncier et pour la bagatelle de 21 000 euros pour pouvoir finalement louer ses locaux dans un bail emphytéotique à la Fondation Pinault, bail qui va durer pendant 50 ans. Anne Hidalgo n'a eu de cesse de vanter les mérites de cet investissement assez lourd qui, selon elle, est un cadeau, une aubaine, et ce même si Paris avait déjà la Fondation Louis Vuitton.
C'est un investissement de 21 millions d'euros pour la ville, 21 millions d'euros qui seront bien dépensés pour les Parisiens, parce que ce que va nous apporter cet investissement est quelque chose d'incommensurable. D'abord, je tenais beaucoup à ce projet parce que je trouve que faire revenir cette collection Pinault à Paris est quelque chose d'exceptionnel. C'est une collection magnifique. Donc qu'ils reviennent à Paris est un cadeau pour nous tous. Vous savez que avoir plusieurs fondations avec des très grands mécènes. Je pense bien sûr à Bernard Arnault et à François Pinault. C'est une chance inouïe pour une ville comme la nôtre et je ne suis pas du tout malthusienne. Je pense que les choses s'ajoutent, qu'elles ne se retranchent pas et donc ça va créer encore plus d'envie de venir voir toutes ces collections. Et donc moi je suis très heureuse de l'énergie de Paris et sa capacité à attirer ces grandes interventions privées et public.
Car maintenant, charge à la famille Pinault de restaurer et de financer intégralement finalement cette fondation et son fonctionnement pendant les 50 ans à venir. Alors, grand nom de l'architecture a été dépoché pour mener le projet à bien. C'est le japonais Tadao Ando qui tient finalement à peu près le même niveau que Franck Guéry, qui lui était l'auteur de la fondation Vuitton. Travailleront aussi avec lui pour le cachet français deux jeunes architectes français, Thibaut Marquand à l'agence NEM. Et pour ce qui est du contenu, François Pinault promet le meilleur de sa collection. Une collection qu'il ne cesse, dit-il, d'agrandir et dont il vante le fonctionnement.
C'est encore élargi il y a une heure, parce que j'ai acheté une œuvre avant de venir ici. Alors vous voyez, donc, ça bouge toujours une collection de l'art d'aujourd'hui, parce qu'il y a des artistes qui créent, qu'on voit des œuvres, des chefs-d'œuvre quelquefois dans leurs ateliers. Il faut savoir sauter dessus, les acquérir, ce que ne peut pas faire une grande institution contrôlée par des États. Il y a des comités d'acquisition, ça prend un certain temps. L'avantage d'un amateur privé qui est un peu fou, enthousiaste, c'est de saisir les occasions quand elles se présentent. C'est un musée en mouvement et très complémentaire des autres musées existants. Merci.
Alors, tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui qu'une telle fondation privée, à l'heure où les comptes publics sont plutôt à sec, est plutôt une chance. Alors, cette fondation n'a pas encore de nom. La conférence de presse évoquait seulement un musée pour la Bourse du Commerce à Paris. Quel sera le coût de l'opération? On ne le sait pas encore, dit François Pinault. On se rappelle de toute façon que Bernard Arnault, lui, avait toujours refusé de donner le prix global de la fondation Vuitton. Quel projet artistique? Quelle tarification, notamment, pour cette fondation privée, modèle si peu connu pour le moment en France? J'ai posé la question à Martin Bettenau, c'est le bras droit de la famille Pinault. Il est en charge des collections à la Fondation de Venise et va s'occuper aussi de celle de Paris.
On peut considérer Venise à la fois comme un prototype, un laboratoire, dans certains cas un modèle, même si évidemment le contexte de Venise et le contexte de Paris sont tellement différents qu'il ne s'agit pas de dupliquer les mêmes choses. Mais en tout cas, Venise donne, je pense, une assez bonne idée dans la manière de montrer des accrochages de la collection thématique, dans la manière de construire des expositions monographiques, rétrospectives d'artistes importants qui font aussi appel à des prêts extérieurs, dans la manière de confier des cartes blanches à des artistes. Voilà, ça donne une assez bonne idée. Ensuite, je crois que la réflexion sur les tarifs, elle est extrêmement importante. La réflexion sur le tarif général, la réflexion sur les tarifs aussi ciblés pour les publics qu'on a vraiment envie de concerner, plus particulièrement les publics jeunes, les publics étudiants. L'ensemble des activités culturelles ou pédagogiques doivent être le plus accessible possible. Donc cette dimension, elle est au cœur de la réflexion, mais je ne vais pas vous en donner dès maintenant les conclusions.
Quoi qu'il en soit, les travaux commenceront dans les semaines qui viennent et la Fondation Pinault à la Bourse de Commerce de Paris devrait être prête pour fin 2018. Et tout de suite, on passe au bref et l'on ouvre avec cette étude publiée aujourd'hui par le Réseau européen des professionnels de l'audiovisuel qui révèle que seulement un film sur cinq est réalisé par une femme. Étude qui a été menée sur un échantillon de plus de 1000 professionnels du cinéma et qui concerne 7 pays européens, Autriche, Allemagne, Croatie, France, Italie, Royaume-Uni et Suède. La grande majorité des financements, soit 84% des films, est destinée à des films qui ne sont pas réalisés par des femmes. L'étude démontre surtout qu'il y a un grand écart entre la proportion de réalisatrices qui sortent diplômées des études des écoles de cinéma, elles sont près de 50%, et celles qui finalement travaillent, elles ne sont que 24%. Et puis cette information, le leader mondial du streaming, le suédois Spotify, s'agrandit, a fait l'acquisition d'une plateforme de photos en ligne, CrowdAlbum. C'est la troisième acquisition de l'année pour le groupe suédois, après l'irlandais Soundwave et l'américain Cord Project.
Merci Zoé. Jeune sur les ondes de France Culture, vous écoutez bien Ping Pong. Non, nous ne sommes pas tout à fait dans la partition de Mobile Étoile, le nouveau film de Raphaël Nadjari dans lequel vous jouez Anna Herman, Géraldine Pellas. On est plutôt avec vous quand vous aviez 15 ans et que vous êtes devenue indépendante, vous êtes installée à Toulouse, vous avez quitté Marseille et le giron familial. Vous étiez à cette époque-là forgée, dit-on, aux idéaux rock de Joy Division, de Bowie, de Blondie. Et paraît-il, vos goûts n'ont pas changé. On l'a aperçu hors antenne. À l'instant, vous refaites une coiffure un peu punk. En quoi est-ce que Joy Division, pour prolonger ce qu'on explore dans Mobile Étoile, c'est une musique sacrée pour vous ?
Ah, c'est vraiment... Ian Curtis, j'ai du mal à dissocier la musique de ceux qui la font. Donc lui est un personnage qui m'a beaucoup émue quand j'étais plus jeune. J'aime cette musique où la basse est très présente. Je suis pas du tout musicienne, hein. Je suis un peu devenue parce que j'ai beaucoup travaillé la musique dernièrement. J'ai ensuite travaillé le violoncelle pour la série Netflix, pour Netflix
Marseille. Marseille.
Ouais. Oui, je suis violoncelliste dans celle-là. Non, mais c'est aussi une ligne, une silhouette, une attitude. Enfin, voilà, pour moi, la musique que j'ai aimée, que j'aime aujourd'hui, c'est une musique qui englobe la vie, enfin, qui prend vraiment.
Vous avez eu des épiphanies à 15 ans ou un peu plus en écoutant Joy Division. C'est pas vraiment dans la tradition juive de voir des apparitions de la Vierge, mais dans la dans la tradition qui est la vôtre.
Mais je pense que j'étais mes amis. En fait, j'ai vraiment trouvé des amis. Bah, vous parliez de Toulouse, je ne vais pas raconter ma vie, mais après mon retour de Toulouse, j'ai vraiment trouvé, vous savez, les amis avec qui on fabrique l'âge adulte, quoi, enfin son entrée dans l'âge adulte, et j'ai rencontré quelques personnes, majorité de garçons et une fille, Et avec eux, j'ai écouté les musiques que j'aime aujourd'hui, vu les films que j'aime aujourd'hui, lu les livres que j'aime encore aujourd'hui. Alors évidemment, ça s'est étoffé avec le temps, mais j'ai creusé ces sillons-là, et un peu toujours les mêmes, parce que j'ai rencontré ceux qui me convenaient, mes alter ego, mes jumeaux intersidéraux. Et voilà, et effectivement, Joy Division, mais il y a des héritiers de Joy Division aujourd'hui, au fond. Enfin, je ne sais pas s'ils se reconnaissent de ça du tout, mais j'écoute quand même d'autres choses.
Par exemple
Arcade Fire, par exemple, que j'adore vraiment. Après, il y a d'autres groupes que j'ai écoutés puis que j'écoute moins, mais il y a Radiohead aussi. Mais c'est vrai que j'étais très, très cold wave, quoi. C'était vraiment mon truc. Et j'aime toujours ça. Et j'ai même réussi à convaincre des gens dans les années 2010 que la cold wave, c'était vachement bien. Donc, voilà.
Devant moi, il y a une espèce de grande carte blanche de terres inconnues. Et au milieu de ces terres inconnues, un cavalier visible, par exemple, pendant un cavalier visible avec son cheval, il est là, je le vois. Je ne vois pas ce qu'il y a autour, je ne vois rien. Et petit à petit, des taches vont se préciser, puis le paysage va venir. Alors là, le paysage va venir. Ce paysage est fonction de quantité de choses. Le paysage est fonction de tous les voyages que j'ai faits pendant la gestation de ces personnages. Le paysage est fonction parfois de sons, de musique, parfois de conversations, parfois de rencontres. Parce que un personnage que je rencontre ne créera pas automatiquement un personnage dans mon livre, mais créera peut-être un paysage dans mon livre. De même qu'un paysage entrevu créera peut-être un personnage. C'est une espèce de mélange anthropomorphe. Les sons produisent des couleurs, les couleurs ont produit des formes, les formes ont produit des sons. Tout ça est mélangé, c'est une espèce de pandémonium qui n'est pas encore coagulé et qui doit être semblable, j'imagine, à ce qui se passe dans la chrysalide du papillon un peu avant que le papillon sorte.
Les correspondances façon Giono, le pandémonium, avec cette composition d'un paysage qui peut donner un personnage, d'un personnage qui peut donner un paysage. Il nous livre les secrets de son écriture. Je sais que pour vous, Jean-Claude Elena, grand parfumeur qui allait composer un jardin, ça se passe dans un festival international du parfum. Je sais que pour vous, Jean Giono, justement, c'est sacré. Vous dites que vous êtes entré dans son univers comme on entre en religion. Alors quelle a été à vous votre épiphanie avec Jean Giono et en quoi sa composition est proche de la vôtre? En tout cas, en quoi il est votre maître?
Dans l'imaginaire, et puis parce que c'est un olfactif, c'est un grand olfactif, parce que tous ses romans sont olfactifs. Et il y a toujours des pans d'histoire très très importante sur l'odeur, et parmi l'image qui me vient à l'esprit, c'est dans Angèle, et le personnage est remouleur, et il se balade comme ça dans la campagne, et puis il trouve une jeune femme, et cette jeune femme l'intéresse, et puis à l'époque il lui fait porter la brouette avec pour remouler, enfin pour aiguiser les couteaux, etc. Et puis le personnage, lui, il est derrière et il sent l'odeur de cette femme. Et tel qu'il décrit cette odeur de cette femme, c'est une bouffée érotique qui vient tout de suite. C'est-à-dire, vous êtes submergé par l'érotisme que l'odeur dégage et ça devient insoutenable. Et ah oui, mais j'étais émerveillé, rien que par les mots, mais oui, je sentais moi aussi la femme. J'aurais pu en faire un parfum. Pas encore.
Je sais que ça vous arrive, justement. Lui dit qu'il s'inspire donc d'un paysage pour donner éventuellement un personnage. On retrouve évidemment dans votre parfumographie L'eau vive, qui est un recueil de oui. Giono. Mais est-ce que vous avez eu une inspiration comme ça précise de l'un de ses textes pour un parfum? Je sais que vous étiez inspiré, par exemple, de Lévi-Strauss, Triste Tropique, pour Paprika Brésil.
Oui, alors récemment, j'ai fait un parfum qui s'appelle Cuir d'Ange. Je dis mot Cuir d'Ange, mais qui vient d'une nouvelle de Giono, qui était... la nouvelle, c'est Jean le Bleu. Le Jean le Bleu qui est une forme d'autobiographie de Giono. Et Jean Giono parle de son père en disant « Mon père était cordonnier et faisait des chaussures en cuir d'ange pour des dieux ailés. » Ah, des chaussures en cuir d'ange pour des dieux ailés. Évidemment, Hermès était là. Forcément qu'Hermès était là, le dieu ailé, le cuir d'ange. Mais rien que l'association, l'oxymore presque, entre cuir et d'ange, 10 ans de travail pour faire ce cuir d'ange. Parce que le cuir est une notion olfactive. Je veux dire, il y, il y a un standard, il y a un archétype du cuir en parfumerie et qu'il fallait que je m'en débarrasse. Il fallait que je jette ça, parce que le cuir apparaît dans les années 20, 1920, et c'est un archétype qui a été réutilisé, et que moi, j'en pouvais plus de ces cuirs. Et puis, en rentrant chez Hermès, d'un seul coup, je trouve un univers de cuir qui ne correspond pas du tout au cuir que j'avais dans le nez. Et c'est un cuir léger, c'est un cuir tendre, c'est un cuir souple, qui est souple et qui est tendre, et qui est aussi léger qu'une aile d'ange. Donc, mais comment faire passer ce sentiment, cette émotion de poudré, de douceur, de légèreté, tout en étant puissant, fort, cuiré. Et donc voilà, ça c'était le travail. Et tant que, donc, 10 ans de réflexion, et c'est presque un film ça, 10 ans de réflexion. 10 ans de travail pour arriver à trouver la dernière note qui fait que, oui, maintenant ça marche, ça fonctionne. Et le cuir d'ange, oui, voilà, c'est fait. Et c'est comme ça que je le voulais, pas autrement. Et tant qu'il n'était pas comme je le voulais, il n'était pas question de le sortir.
Géraldine Pellas, vous parliez tout à l'heure de votre enfance à Marseille. Votre père n'était pas cordonnier, il n'était pas tanneur. Il a été menuisier avant de devenir galeriste d'art contemporain, collectionneur. Vous avez des souvenirs de parfums c'était quoi les parfums de Marseille de l'enfance? C'était le vernis, la sciure, le
non,
bois?
Non, le vernis pas tellement, mais oui, l'odeur de la sciure, oui, le bois frais coupé dans cet atelier... C'est, enfin, vous le citez là et ça me revient tout de suite. Bien que je n'y sois pas allée si fréquemment, parce qu'il m'invitait pas à venir tous les jours dans son bureau.
On dit que vous avez grandi à côté de la Cité Radieuse, de Le Corbusier.
Pas très loin. Oui, c'est vrai.
Ça veut dire que c'était mêlé à quoi? Alors ces parfums de sûr qui par intermittence vous parvenaient?
Oui, mais j'étais aussi élevée par un grand-père du côté de ma mère qui était directeur des Beaux-Arts et peintre. Donc il y avait aussi l'atelier de peinture.
La térébenthine.
La térébenthine, la peinture elle-même. Et j'ai été élevée par la femme de cet homme, qui était donc ma grand-mère maternelle, qui elle est née au Vietnam, donc elle aussi ramenait des parfums avec elle et m'a fait découvrir surtout au niveau de la cuisine des choses que j'aurais probablement découvertes beaucoup plus tard, mais qui m'ont vraiment constitué. Qui ont créé la sensualité que j'ai. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été fabriquée par ces trois éléments qui sont très différents les uns des autres, mais qui, à la fin, finissent par créer quelque chose d'assez explosif. Mais
les mélanges font un parfum.
Jean-Claude Hélène.
Les mélanges, les compositions comme ça font un parfum.
Oui, même si c'est pas très harmonieux forcément au départ.
Vous mettez du Wakmam, Jean-Claude Hélène, dans un parfum?
Pas encore, mais...
De synthèse.
L'idée m'intéresse.
Et je pensais juste à quelque chose tout à l'heure quand vous parliez des femmes et de Giono. Et je me souviens justement quand Maurice Piala disait que les femmes ne sentaient pas la rose comme on voulait le faire croire, mais elles sentaient plutôt l'andouillette.
Ping-pong. La culture sans limite.
Oui.
Et voici
Satan.
Le disque du jour que vous nous présentez aujourd'hui, Mathilde. Mais alors, que sent ce disque du jour?
Alors, ce disque du jour sent à la fois la fleur du désert et le flower power. C'est le nouvel album du musicien Touareg nigérien Bombino, enregistré dans une ferme studio à Woodstock. On y retrouve le blues du Sahel qu'il a fait connaître aux côtés de groupes comme Tina Riwen. Et ce parfum de révolte, la guitare électrique considérée comme un symbole de la résistance Touareg, résistance au gouvernement de Niamey au Niger. Une opposition qui a contraint Bombino, originaire d'Agadez, à l'exil. Ce nouvel album intitulé Azel désigne à la fois une ville désertique près d'Agadez, où a été construite la première et seule école touareg du pays. En tamashek, la langue maternelle de Bombino, ça signifie aussi racine, les racines de l'arbre. Et on l'utilise aussi pour traduire le That's My Jam des anglo-saxons. C'est quand on entend une chanson à la radio et qu'on dit ouais, ça c'est mon style. Alors dans Azel, enregistré aux États-Unis, vous allez retrouver des titres engagés, mais aussi des notes psyché-rock, une lumière plus occidentale, comme dans ce titre Inar. Bambino, chèche et guitare électrique en avant. Le titre s'appelle Inar, If You Don't Know the Degree of My Love for You. Il y a une traduction anglaise. L'album a été enregistré aux États-Unis et c'est publié chez Partisan Records.
Ping pong.
Mais c'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous deux.
Parfum de fin.
Géraldine Pellas et Jean-Claude Elena. Géraldine Pellas, donc, vous êtes à l'affiche depuis aujourd'hui dans Mobile Étoile, le nouveau film de Raphaël Nadjari aux côtés de Luc Picard, Félicia Schulman ou encore Éléonore Lagacé. Quant à vous, Jean-Claude Elena, on peut vous retrouver au Festival International des Jardins à Chaumont-sur-Loire pour la 25e édition anniversaire de ce grand festival. Vous y signez un jardin carte verte et il est à découvrir et à respirer jusqu'au 2 novembre.
Le ping-pong est une partition radiophonique et une odeur qui persiste parfois et s'écrit à plusieurs à la rédaction. Aïssatou Ndoye, Hélène Delis et Mathilde Cadreau à la réalisation et la programmation musicale. Thomas Beau à la prise de son ce soir, Pierrick Monsigny et Bruno Gagnère-Fontanil.
Le ping-pong se pratique également sur le réseau interconnecté et cela pendant l'éternité et un jour. Mais quid de notre beau lendemain, Mathilde?
Demain, ce sera un roman sans voile et un monologue affranchi avec Chador Djava et Coralisa Onero.
Mais tout de suite, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Denis Podalydès de la Comédie Française.